RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, l'orbe suivante, magazine culturel et ma langue. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Institut indonésien des sciences ou LIPI cartographiera et recherchera des informations sur les ressources marines indonésiennes. Le ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie s'est engagé à créer une ville respectueuse de l'environnement. Le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts continue de lutter contre la déforestation. KRNA s'est intéressé aux investissements de trains rapides dans le nord de Sumatra. La part de marché de l'industrie agroalimentaire est positive. Charmi nous présente maintenant le journal complet. L'Institut indonésien des sciences ou LIPI effectuera une cartographie des ressources marines indonésiennes pour savoir le potentiel. En outre, LIPI recueillera également des informations de base sur les ressources marines indonésiennes étant riches en biodiversité. Ceci a été dit par le vice-président de LIPI, M. Bambang Subianto, après l'ouverture de la deuxième conférence scientifique de l'expédition internationale de l'océan Indien qui a eu lieu à Jakarta mercredi 21 mars 2018.
Nah, itu LIPI akan membuat pemetaan dan baseline bahwa sebenarnya
LIPI fera la cartographie sur les ressources marines, notamment la biodiversité, après qu'il y ait des interventions technologiques pour la gestion et l'utilisation pour la nourriture, l'énergie, etc. Nous pouvons savoir, c'est le point. Et c'est la coopération avec l'EPI de l'océan Indien. Nous espérons qu'il y ait des informations et aussi des recherches de ce pays voisin. Selon M. Bambang Subianto, à des fins de cartographie et de collecte d'informations de base sur les ressources naturelles marines, l'EPI utilisera ses navires spécialisés pour les recherches marines. Mais actuellement, le navire appartenant à LIPI ne peut faire que la profondeur de recherche à une profondeur de 200 mètres. Cependant, l'Indonésie a un creux qui atteint 10 km de profondeur. Par conséquent, Bambang Subianto continue à essayer de réaliser la dernière flotte de navires de recherche avec de meilleures spécifications que les navires de recherche existants. Le ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie continue de s'engager à créer des villes vertes et respectueuses de l'environnement. Pour réaliser cette question, le ministère de l'Environnement et des Forêts continuera à renforcer la coopération avec des différentes parties et spécifiquement à superviser la zone forestière située dans la zone urbaine. C'est ce qu'a déclaré la ministre Siti Nurbaya Bakar à la Voix de l'Indonésie mardi 20 mars à Jakarta.
The Ministry of Environment and Forestry will strengthen collaboration with city planners.
Le ministère de l'Environnement et des Forêts renforcera la coopération avec les urbanistes, l'immobilier, les praticiens et les communautés pour rendre notre ville plus verte et plus saine. Nous avons également publié un décret ministériel en 2009, une sorte de directive pour la gestion des forêts urbaines et la supervision à l'autorité municipale pour la préparation des forêts urbaines. Nous travaillons avec cet aspect maintenant. Selon le ministre Siti Nurbaya Bakar, l'engagement de réaliser une ville respectueuse de l'environnement, est conforme à la Constitution de 1945 relative à la mise en œuvre des droits de l'homme, parce que le droit des personnes à vivre dans un environnement sain et vert fait partie des droits de l'homme. Concernant les forêts et les villes, le ministre a dit que la ville était fortement dépendante des forêts parce qu'elle fournit divers besoins vitaux pour les habitants de la ville tels que l'eau, l'air frais et d'autres nécessités. Tant de déforestation dans les forêts qui se sont répandues dans diverses régions d'Indonésie a poussé le ministère de l'Environnement et des Forêts à travailler dur pour lutter contre le crime. Selon la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, dans une interview avec La Voix de l'Indonésie mardi à Jakarta, son équipe a traité à plusieurs reprises les bûcherons illégaux et les a traînés devant les tribunaux pour leurs violations.
We work also very hard on this illegal logging. Within 3 years, we have been having more than 100.
Nous travaillons également très dur pour résoudre cette déforestation. Il y a plus les 3 ans, nous avons eu plus de 144 fois l'opération pour lutter contre ces bûcherons illégaux. Et il y a eu des cas préparés pour les amener à la cour, plus d'environ 174 documentés et préparés à la cour, et environ plus de 60 cas sont en cours de préparation. Le ministre Siti Nurbaya a ajouté qu'en plus de cas de déforestation, le rétrécissement des zones forestières en Indonésie est également dû à plusieurs autres facteurs, tels que l'augmentation massive de la population dans diverses régions. Par conséquent, elle continuera à faire divers efforts, y compris le développement d'institutions spéciales liées aux écosystèmes forestiers, comme l'unité de gestion forestière. Sur la base des données du ministère de l'Environnement et des Forêts, au moins 1,1 million hectares, soit 2% des forêts indonésiennes, se rétrécissent chaque année. Les données mentionnent également que sur les 130 millions d'hectares restants des forêts indonésiennes, 42 millions d'hectares ont été défrichés ou endommagés. La destruction des forêts, qui est de plus en plus grave, perturbe les écosystèmes forestiers et les environnements. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le besoin de transport collectif rapide, sûr, abordable et confortable de la communauté urbaine encourage le gouvernement provincial du nord de Sumatra à réaménager immédiatement les wagons et les voies ferrées. L'investissement étranger a été ouvert aussi largement que possible, mais doit toujours suivre les politiques et règlements du gouvernement de la République d'Indonésie. Korea Rail Network Authority, ou KRNA, une entreprise d'État sud-coréenne qui a collaboré avec plusieurs gouvernements locaux sur l'île de Java, a tenu une audience avec le gouvernement provincial de Sumatra du Nord au bureau du gouverneur de Sumatra du Nord à Medan récemment. Ils ont exposé le profil de l'entreprise, l'amélioration du transport ferroviaire en Corée du Sud, des trains conventionnels aux trains rapides CEO Project Angkor. Le directeur général adjoint de KRNA, Sung Hae-jo, a déclaré qu'il était heureux de participer au développement de chemin de fer dans le nord de Sumatra. À cette fin, KRNA a bientôt appris la planification des chemins de fer faite par le gouvernement provincial et central.
Yeah, we are very happy to participate in this project.
Nous sommes très heureux de participer à ce projet. Nous devons étudier leur plan directeur et ils ont déjà terminé une étude de faisabilité. Nous devons étudier et discuter avec mes patrons. Après cela, nous pouvons trouver. Cependant, Agustinus, le chef de secteur ferroviaire de l'Office des transports du nord de Sumatra, a proposé un projet ferroviaire reliant les zones Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Karo et Pematang Siantar à l'aéroport international de Selangit sur le site touristique du lac Toba. Un rapport avec le plan de construction rapide de chemin de fer jusqu'à lac de Toba, selon Hidayati, directeur du bureau de tourisme de la province Sumatra du Nord, le transport ferroviaire rapide permet aux touristes d'entourer le géoparc du lac Toba un peu de temps. Hidayati a ajouté le train rapide pouvait stimuler les visites touristiques au lac Toba. Ainsi, l'objectif d'un million de touristes visitant le nord de Sumatra en 2019 peut être atteint. Le ministre de l'Industrie Erlangga Hartanto mentionne le part croissant du marché des industries alimentaires et des boissons a atteint 9,23% en 2017, soit une augmentation de 0,77% par rapport en 2016. L'industrie est en fait le plus grand contributeur au produit intérieur brut dans l'industrie non pétrolière, à savoir 34,33% en 2017, ce qui en fait un grand rôle dans la croissance économique de l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé Erlangga Hartanto dans un séminaire sur la stratégie et l'innovation du secteur alimentaire, répondre aux défis de l'ère industrielle 4.0 à Jakarta mercredi. Cette réalisation rend le secteur alimentaire et des boissons comme l'un des 5 secteurs prioritaires pour accélérer la mise en œuvre de l'industrie de 4.0 et aussi l'industrie pilier. Par conséquent, on nécessite une norme internationale qui n'est harmonisée qu'au sein de Food and Innovation Center. Avec les normes internationales en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les normes plus saines qui ont été harmonisées, ces produits peuvent être échangés dans la région ASEAN, même l'Australie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les eaux sont la source de vie ». Le 22 mars de chaque année est célébré comme une journée mondiale de l'eau. Cette célébration vise à renouveler la détermination dans la mise en œuvre de l'agenda 21 qui a été lancé en 1992 à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro ou populairement connue sous le nom de Sommet de la Terre. Lors de la 47e Assemblée générale des Nations Unies, le 22 décembre 1992, par une résolution, la proposition d'agenda 21 a été acceptée et en même temps désignée comme la Journée mondiale de l'eau, commémorée depuis 1993 par tous les États membres de l'ONU. L'agenda 21 est un plan d'action pour le développement durable au XXIe siècle. Ce programme d'action, bien que non contraignant, connaît la participation de diverses organisations internationales et gouvernemental et appliqué au niveau local, national et mondial. Et en Indonésie, sur la base des données du ministre indonésien de l'Intérieur, La population totale de l'Indonésie au 30 juin 2016 atteint environ 262 millions de personnes. Cette quantité doit être en ligne avec le besoin de l'eau. Si elle n'est pas maintenue, il y aura la crise de l'eau due à une répartition inégale des ressources en eau, notamment l'eau potable. Outre l'irrégularité, le problème de l'eau dans un pays où l'Indonésie connaît deux saisons, est trop pendant la saison des pluies et trop peu pendant la sécheresse. Pour cela, il a besoin d'une gestion adéquate. Le gouvernement a fait beaucoup de façons, entre autres la construction des infrastructures telles que des barrages. Les barrages servent à retenir l'eau pendant la saison des pluies et drainer l'eau pendant la saison sèche. Avec la croissance de la population de plus en plus rapide, le problème des ressources en eau et la gestion deviennent plus complexes. Le plus important est le contrôle et la supervision de l'utilisation de l'eau propre parce que la source est de plus en plus reculée. Soyez sage dans l'utilisation de l'eau parce que les générations futures ont besoin des eaux pour continuer leur vie. Chers amis, c'est le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 22 mars 1945, la Ligue arabe a été formée au Caire par six pays tels que l'Égypte, l'Irak, Transjordanie, aujourd'hui la Jordanie, le Liban, l'Arabie saoudite et la Syrie. Le Yémen a commencé à devenir membre le 5 mai 1945. Actuellement, cette Ligue compte 22 membres, mais la participation de la Syrie a été interrompue depuis novembre 2011 en raison de la répression du gouvernement pendant la guerre civile syrienne. L'objectif de la Ligue arabe en 1945 était de renforcer et de coordonner les programmes politiques, culturels, économiques et sociaux de ses membres et arbitrer les différends entre eux ou entre eux et des tiers. En mars 2015, le secrétaire général de la Ligue arabe a annoncé que la formation de groupes de forces arabes conjointes dont le but de contrer l'extrémisme et d'autres menaces, pour les pays arabes. La participation à ce projet est volontaire et l'armée n'intervient qu'à la demande de l'un des États membres. Le 22 mars 1946, l'indépendance de la Jordanie. Au début de la période de conquête qui est faite par les musulmans, la Jordanie a été devenue une partie du califat musulman. Au milieu du XVIe siècle, la Jordanie était gouvernée par l'Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale et l'affrontement de l'Empire ottoman, les Britanniques occupèrent la Jordanie, l'Irak et la Palestine. Le 22 mars 1946, la Grande-Bretagne a signé le traité d'indépendance jordanien, puis la Jordanie est devenue un royaume. Le 22 mars, la Journée mondiale de l'eau. La Journée mondiale de l'eau est un mémorial dont le but d'attirer l'attention du public sur l'importance de l'eau propre et des efforts de sensibilisation pour la gestion durable des ressources en eau. La Journée mondiale de l'eau est commémorée tous les 22 mars. Cette initiative d'avertissement a été annoncée lors de la 47e Assemblée générale des Nations unies le 22 décembre 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Chaque année, la Journée mondiale de l'eau a un thème spécial. Le thème de la Journée mondiale de l'eau 2018 est « Nature pour eau », recherche d'une solution naturelle au défi de l'eau auquel nous sommes confrontés au XXe siècle. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre la ministre indonésienne de l'environnement et des forêts évalue le souci de la communauté contre les déchets augmente. La ministre de l'Environnement et des Forêts, LHK, Siti Nurbaya Bakar, a répondu au rapport selon lequel l'Indonésie est le deuxième plus grand contributeur de déchets plastiques à la mer. Selon elle, cette information utilise les données de 2015. Pendant ce temps, au cours des deux dernières années, diverses communautés ont été extrêmement préoccupées par les déchets avec le gouvernement indonésien. La ministre Siti Nurbaya Bakar, lors de participer à la Journée nationale des déchets HPSN à Makassar, a déclaré dimanche que de 2015 jusqu'à présent, de nombreux changements s'avaient produits en Indonésie parce que la dynamique des populations qui est préoccupée des déchets est également très élevée. Elle a dit que le mouvement communautaire s'occupant des déchets implique presque tous les secteurs de la société, allant des étudiants, des scouts, des agences privées et gouvernementales, etc. Siti Nurbaya Bakar a ajouté que les âmes des enfants sont déjà formées à se rendre contre les déchets et transformer des déchets en devenir productifs pour aider l'économie familiale à travers la banque de déchets. En ce qui concerne la gestion des déchets, il y a actuellement environ 5244 banques de déchets réparties à 500 TPA dans 30 provinces d'Indonésie. La Direction générale de la gestion des déchets, des matériaux toxiques et dangereux, ou PSLB3, du ministère LHK, a également coopéré avec plusieurs entreprises d'emballage pour la production respectueuse de l'environnement. Pendant ce temps, en ce qui concerne les déchets, le gouvernement assure le suivi du règlement présidentiel sur le plan d'action national pour la gestion des déchets en mer. L'action nationale est menée dans 26 villes qui ont des plages ou des grands fleuves avec la communauté, notamment à Surabaya, Manado, Jakarta, Denpasar et Banjarmasin. Pendant ce temps, Rosa Vivienne Ratnawati, directrice générale de la gestion des déchets, des matières dangereuses et toxiques, a déclaré que la Journée nationale de préoccupation des déchets 2018 avait pour but de sensibiliser le public au maintien de la propriété. Le thème de la commémoration de HPSN 2018 est « Aimer la terre, nettoyer des déchets ». L'événement est animé par diverses activités, notamment l'exposition sur le recyclage des déchets, le peser des ordures, le carnaval sur le recyclage des déchets et l'action de nettoyage. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Institut indonésien des sciences ou LIPI cartographiera et recherchera des informations sur les ressources marines indonésiennes. Le ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie s'est engagé à créer une ville respectueuse de l'environnement. Le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts continue de lutter contre la déforestation. KRNA s'est intéressé aux investissements de trains rapides dans le nord de Sumatra. La part de marché de l'industrie agroalimentaire est positive. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel et cette fois, nous allons vous présenter la plage de Amadi. Si vous voulez passer des vacances en apprenant l'histoire avec un accès facile, s'il vous plaît, visitez le district de Jayapura Dusut, la province de Papouasie. Non loin du centre de la capitale de la Papouasie, il y a une plage qui est un mélange d'attractions naturelles et de tourisme historique. Cette plage s'appelle la plage de Amadi. Pour se rendre à la plage de Amadi, vous pouvez d'abord prendre l'avion de l'aéroport Soekarno-Hatta à l'aéroport international de Sentani à Jayapura. Et ensuite, vous pouvez continuer le voyage en transport en commun avec un tarif d'environ 5000 rupiah jusqu'à 10000 rupiah où vous pouvez utiliser le ojek ou le taxi moto avec le tarif de 10000 jusqu'à 30000 rupiah. Si vous sentez la brise sur le chemin de Jayapura, cela signifie que vous êtes proche de la plage Amadi qui est située près de l'autoroute. Bientôt, vous passerez à travers la porte de la zone de la plage. Pour y entrer, vous devez payer 10000 rupiah pour les véhicules à 2 roues et 20000 rupiah pour les véhicules à 4 roues. En arrivant à la plage de Amadi, vous serez accueilli par l'air frais et les beaux paysages. Les arbres verts, les forêts de mangroves et le sable blanc seront présents autour de la plage. La plage est plus intéressante à marée parce qu'il y a un phénomène appelé par le peuple local comme les vagues vol. Ces vagues se produisent lorsque les grandes vagues frappent durement les murs de récifs artificiels. Les vagues peuvent s'étendre jusqu'à 5 ou 8 mètres de haut. Sur cette place de 5 hectares carrés, vous pouvez également trouver des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Les vestiges historiques les plus facilement découverts sont les restes d'une forteresse de défense alliée qui s'étend sur 2 km de long. Si vous allez plus loin, vous pouvez trouver beaucoup d'autres reliques historiques, comme par exemple les canons. Après avoir nagé et voyagé autour de la plage de Amadi, vous pouvez vous détendre en relaxant dans les petites maisons qui sont loués avec des prix de 25000 jusqu'à 100000 rupiah. Et n'oubliez pas d'acheter des souvenirs pour votre famille ou bien vos amis. Non loin de la plage de Amadi, vous trouverez un centre de souvenirs et d'artisanat local appelé le marché central de Amadi. Vous pouvez également trouver un monument qui commémore le débarquement des forces alliées juste en face du marché central de Amadi. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La plage de Amadi, située dans la province de Papouasie. Merci à tous et à bientôt.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à La Voix de l'Indonésie à Jakarta. La Voix de l'Indonésie à Jakarta, dans la rubrique Malanga, en tant que média pour la préservation de la diversité des langues régionales en Indonésie. Chers amis, dans cette édition, nous vous invitons à visiter la province des Moluques afin de connaître plus loin la langue de Yalahatan. Bien que cette province soit un hameau, les habitants de Yalahatan ont de nombreuses professions, telles que l'enseignant, le pêcheur, l'agriculteur, le militaire, la police, les fonctionnaires, mais la plupart des gens sont les agriculteurs. En général, la structure de la phrase en langue de Yalahatan est composée du sujet, du prédicat, puis de l'objet. Les clauses de Yalahatan comprennent également des clauses libres et des clauses liées, comme en indonésien et en plusieurs autres langues. Chers amis, voici quelques exemples de mots et d'expressions en langue de Yalahatan. Suai, suai, en français, venir de. Hilamalawa, hilamalawa, en français, du jardin. Hamu, hamu, en français, se réveiller. Orasi lima, en français, à 5 heures. Eu, eu, en français, allez. Voici quelques exemples de phrases en langue de Yalahatan. Papai suai hilama lawa. Papai suai hilama lawa. En français, papa vient du jardin. Yau hamu orasi lima. Yau hamu orasi lima. En français, je me réveille à 5 heures. Apetu ina eu i pasar. Apetu ina eu i pasar. En français, hier, mama est allée au marché. Chers amis, n'oubliez pas d'envoyer vos critiques et suggestions par email à voi@voinews.id. Je répète, à voi@voinews.id ou par notre Facebook dont le nom est The Voice of Indonesia. Chers amis, c'était la rubrique Malanga en tant que média pour la préservation de la diversité des langues régionales en Indonésie. Merci à tous et à la semaine prochaine.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous avons sélectionné les chansons nostalgiques chantées par Helen Sparinga. Bon serviteur, pour ouvrir notre rencontre, Voici sa chanson intitulée Mon amour bleu. Bonne écoute.
Merahnya asmara, birunya cintaku, bagai mimpi
Le nom Helen Sparringa commence à être connu en Indonésie depuis la sortie de l'album intitulé Mon Amour Bleu en 1985. Cet album est soutenu par Obi Mesa, Wahyu O.S. et Dedi Dores en tant que chanteur invité. En outre, le nom de Mus Mulyadi est également apparu sur plusieurs chansons de cet album en tant que compositeur. La chanson principale dans cet album est intitulée Mon Amour Bleu. Cette chanson a été composée par Obi Mesa. Outre Mon Amour Bleu, cet album a d'autres chansons hits intitulées Je trompe à mon chagrin. Bon, serviteur, écoutons donc maintenant notre chanson de Les Parkinga intitulée Entre noir et blanc. Bonne écoute.
Ombak laut biru mendengar kau memutus cinta, bergetar kilat di angkasa, sedangkan tiada hujan. Lihatlah terlanjur sesat langkah di karena janji, ibarat tangkai aku telah patah, ibarat burung aku tandus, ibarat sungai aku kering. Kini musnah harapanku, cinta terputus di tengah jalan. Oh, oh, kau tinggalkan noda hitam buah cinta kasih yang putih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu dan tak pernah terlahir lagi. Terlanjur sesat langkah diri karena janji, ibarat tangkai aku telah patah, ibarat gurun aku tandus, ibarat sungai aku kering. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu dan tak pernah terlahir lagi, dan tak pernah terlahir lagi.
Après la sortie de l'album Mon Amour Bleu, Helen Sparringa continue de colorer le monde de sang. Un an après la chanson intitulée Mon Amour Bleu, en 1986, elle sort un album intitulé Semera Duka Hatiku qui est également très bien accueilli par les amateurs indonésiens. L'année suivante, elle a lancé à nouveau l'album intitulé Entre Noir et Blanc en novembre 1987. Dans cet album, la chanson principale est Entre Noir et Blanc. À travers cette chanson, Helen Sparinga est très connue. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons de Helen Sparinga intitulées Entre l'amour et la vérité et Il y a encore nous. Bonne écoute et à demain.
Dulu
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Jangan
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIIndonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.